bonheur mensuel de Safer Zone sur la bande FM bruxelloise.
What is my subconscious understanding in relation to whatever I'm experiencing?
La mensuelle Safer Zone de la bande FM.
I need something. Something that's gonna free my soul. I need some house music. I need a kick. Give me a kick.
It's just like this. Hello à tous, bienvenue dans le dernier épisode de cette première saison de Talk from Homographia. Ici c'est toujours Baxter, accompagné de mon cher Princessine et de notre chère Suzy Q aux commandes. C'est l'été, enfin presque, les Bruxellois comprendront. Malgré tout, les soirées et autres événements reprennent. Mais comment ? Autant ne pas louper le départ et ne pas retourner aux habitudes anciennes et périmées. Continuons de tirer vers le safer et pour tous. La fête, oui, mais comment la rendre encore plus inclusive dans nos communautés ? Avec nous ce soir, nous avons DJ Poussin.
Bonjour.
Bonjour DJ Poussin, co-organisateur des soirées chaudières et des apéros TPG. On aura aussi au téléphone, plus tard si elle décroche, Alice du collectif Mother and Daughters et également celle qu'on ne présente plus. Mais néanmoins, je vais la présenter quand même. Marianne Chargois, organisatrice du SNAP Festival, entre autres. Du coup, ce soir... Bonjour.
Bonjour.
Et bonjour, Princessine, comment allez-vous ?
Je suis un peu perdu, j'ai pas mon script.
Mais attendez, je vous passe mon GSM quand c'est votre tour, ça va ?
C'est bientôt les vacances, ça se sent.
Du coup, on va discuter de Safer Zone, de soirée queer, de créativité, de lieux de libre expression, de son où c'est soi-même. Mais tout d'abord, est-ce que vous pouvez vous présenter à nos auditeurices, nos chers invités ? Et oui, c'est à vous que je parle.
Qui commence ?
Ah bah la plouf, hein. Plouf, plouf. Je le fais vraiment ?
Ouais.
Plouf, plouf. Pique-ni, douille, c'est toi l'andouille. Je sais pas ce que ça veut dire. C'est toi qui commence du coup ?
Oui. Bah, du coup, tu m'as présenté comme co-organisateur pardon, des soirées chaudières qui étaient, ou seront peut-être encore un jour. Hein,
Feu ou pas.
En tout cas, la version gros stuff s'est déroulée jusqu'en 2018, octobre 2018, et c'était des soirées queer pour les transpédéguines et leurs amis. Ça a été avec un succès grandissant, et ça se passait essentiellement dans deux lieux qui n'existent plus maintenant, le 123 et le Barlock. Est-ce qu'il faut dire d'autres choses ? Est-ce que vous avez besoin d'autres informations à mon sujet ?
Je ne sais pas, tu peux dire que tu es DJ toi aussi.
Oui, ça m'arrive, après c'est une activité très annexe.
Très bien. Bon bah voilà, hein. On n'a pas besoin de plus. Pour l'instant, peut-être qu'on trouvera des choses à dire après.
Ok.
Ça j'en suis sûr. Et vous Marianne Chargois ?
Eh bien, de mon côté, j'organise des événements, des festivals. Je travaille sur le festival SNAP, Sex Worker Narratives, Arts and Politics. Donc, qui est un festival entièrement dédié aux discours et représentations des travailleurs et travailleuses du sexe, dont la prochaine édition aura lieu en mai 2022. À Bruxelles. Mais avant ça, j'ai travaillé aussi sur d'autres festivals porno queer en France. Sinon, je suis aussi performeuse et je suis travailleuse du sexe depuis assez longtemps maintenant. Donc, je ne dirai pas mon âge. Je suis essentiellement dominatrice.
Merveilleux. Merci.
Super. Alors en fait, avant peut-être d'écouter un peu de musique, parce que ça c'est ce qu'on avait promis pour ce dernier épisode de la première saison de Talk for Homographia, on avait une annonce à faire. Justement, les dates du festival du même nom, Homographia, ont été confirmées.
Wouhou !
Ouais. Wouhou ! Ça se passera sur 3 jours, au Tripostal et à la Tour à Plomb, les 30 septembre, 1er et 2 octobre. Et au programme cette année, toujours des projections, des performances, une expo, un panel de discussion, la désormais incontournable Black Box, mais aussi des ateliers autour de la déconstruction des stéréotypes de genre, entre autres, des rencontres d'artistes et une soirée de clôture inclusive. Si, on dit oui.
Oui.
Oui, ok, super.
Bien sûr, ça va se passer.
Ça va se passer. Et à ce propos du festival, donc, il y a eu un appel à bénévoles qui circule déjà sur les réseaux. Vous pouvez en trouver les détails sur homographia.com et sur comment nous envoyer un petit message si jamais vous avez envie de nous rejoindre. Et maintenant, on va écouter un morceau de musique et un premier, je dirais. On en passe un. Et
c'est lequel?
Ah bah ça va être lequel? Ça va être la surprise.
Mais est-ce que vous avez donné vos chansons à madame la régisseuse? Oui. Et bon, écoutez, vous choisissez Suzy Q. Hein.
Tigas and Glacis, c'est d'Adrien Poussin?
Pas du tout.
Non, ah, c'était okay. Mon
c'est
choix.
Ah, voilà. Ah.
Non, c'était le mien.
Alors, Random, avec Hey Boy, alors c'est ça? Non plus?
Oui. Ça, c'est Marianne.
Ouais. Ok, d'accord. Quel était le morceau choisi par Poussin?
Ah, je ne sais pas. Mettez un morceau.
Sais plus.
Il y a l'origine chère de Strong Enough.
Ouais, allez.
Oh, c'est un petit ouais, ça.
Je voulais la garder pour le dernier.
Ok, alors gardons-le pour le dernier et puis mettons Random Recipe.
Voilà.
Hey boy.
I've been here about chicks sucking dicks and shit since I was 6 years old. On TV, magazines, and movies, all generating bricks of gold. Kindergarten age, too young to gauge how much was stage of all the sex they showed. I think it's sage to turn a page on the golden age of the way our bodies sold. Bitch, gotta show tits, and if you really wanna love her, better blow dicks. I'm not an ornament, I'm a monument, like the women on a freaking $20 bill. So honor it, and it really kills me that you think I'd ever wanna be a princess, not even a queen. And I guess I've ever since then hated Halloween. Boy, you ready for a glimpse of society I dream of?
Hey boy, better wipe that grin off your face if you wanna make sure that I keep a place safe for you in this dream world. While a pendulum swings and reverses things, making this grand world not a man's world anymore.
Liar, liar, pants on fire. You know you ain't looking good, shit, you might as well get fired. We kinda tired, feeling uninspired. Penny wishing roles be flipping, we'd be admired. So move aside, time to take a hike. Put an end to our world forever run by guys. Surrender to your snipe, see it through her eyes. Things will not get worse if you just let us ladies rise. After all, we do give you life. It's been 10 million days and nights, it's time to share these rights. And on each other we'll rely, and we'll combine the coolest shit you've ever seen in order to survive.
You don't like the smell of bras burning. We don't like you selling short our earnings. You don't like our body hair growing. But we don't like your creepy ass groping. You can hold the door as we march through. Or you can be the doormat, we'll march over you. Don't try to lock the door and lock us in though. Cause we can always blow through the window.
Boy, better wipe that grin off your face if you wanna make sure that I keep a place safe for you in this dream world where a pendulum swings and reverses things, making this grand world not a man's world.
You don't believe I'm really gonna kill it.
Eh ben salut, on est de retour sur Talk from Homographia. Je dis n'importe quoi. Vous écoutez toujours Radio Panique, ça c'est sûr, sur le 105.4, et c'est Talk from Homographia, et on est un petit peu fatigué. Mais on a Alice au téléphone.
Coucou.
Coucou Alice, ça va bien?
Ouais, ça va, je suis au milieu de la pluie, au milieu de la forêt. Et du coup, je vais essayer de trouver un endroit où le réseau est stable. Mais vous m'entendez bien ou quoi?
Oui. On t'entend bien, oui.
Super. Ok. Top.
Alors du coup, on est déjà en studio avec DJ Poussin et Marianne Chargois qui se sont présentés. Okay. Est-ce que tu veux bien te présenter à nos auditrices, dire qui tu es, le collectif Mother and Daughters?
Peut-être je me présente pas moi personnellement parce que c'est plus par rapport à Mothers and Daughters que vous m'appelez, on va dire. Du coup, Mothers and Daughters, c'est un collectif qui a pour l'instant 13 membres, on va dire. 13 membres, c'est la team, quoi. Et on essaye depuis 3 ans cette forme-là avec... avec ce projet-là, d'ouvrir un bar éphémère pendant 2 mois, en mai et juin. Et avant, Mothers and Daughters faisait aussi des soirées, a fait 3 soirées au Burskoburg, et sous une autre forme. C'était pas notre propre bar, quoi. C'était plus investir le Burskoburg, prendre le bar, avoir ses propres, enfin, des gens. Du coup aussi derrière le bar à l'entrée et voilà, il y a une programmation plutôt queer, lesbienne, trans, féministe et du coup voilà. Et après on a essayé d'ouvrir un bar la première année en 2018, puis on a fait en 2019, on a changé d'endroit et cette année on n'a pas ouvert.
Ça fait pas ouvert.
Ah non, attends, ça fait 2 ans qu'on n'a pas ouvert, ben puisque oui, c'était 2020 plus 2021. Ah ouais, c'est ça. Donc voilà.
Très bien, bon. Il y a une première question un peu pour tout le monde, qui est, donc de manière générale, qu'est-ce que vous avez mis en place, inventé ou réinventé pour que les événements et les soirées soient un peu plus safer? Et là, du coup, j'ouvre la question aussi à nos deux invités qui sont avec nous en studio.
Je peux peut-être commencer.
Mais je t'en prie.
Parce qu'en fait, j'ai historiquement, du coup, il y a, en ce qui me concerne, j'ai découvert les fêtes queer dans le milieu punk, du coup, qui étaient déjà en soi une niche et dans les squats. Et donc, c'est plutôt des gens a priori, des personnes au courant qui venaient. Après, avec l'avènement des réseaux sociaux, ben, un peu d'autres types de publics a commencé à venir à ce type d'événement. Et pour les soirées chaudières, du coup, ben, on annonçait clairement sur les annonces, sur la communication, que c'était des soirées pour les transpédéguines et leurs amis. Du coup, c'est déjà un truc, un élément. Et aussi, y a 2 autres. Truc qu'on a mis en place au fur et à mesure, c'est travailler sur la manière d'accueillir les gens, histoire que on n'a pas toujours réussi, mais en tout cas on a essayé plusieurs manières d'accueillir le public afin qu'ils sachent direct dans quoi ils tombent et que s'ils avaient des ardeurs autres, enfin désobligeantes avant de rentrer, qu'elle soit désamorcée dès le moment où il passe la table d'entrée, quoi. Et donc ça, c'est plutôt les éléments préventifs entre guillemets. Et il y avait toujours des gens de l'équipe organisatrice qui étaient assez, des personnes de l'équipe organisatrice qui étaient attentives attentives à voir que le public se comportait bien, quoi. Et réceptif aux plaintes éventuelles, histoire d'identifier une personne malveillante et lui demander de partir, quoi.
De mon côté, sur les festivals sur lesquels je travaille, notamment par exemple sur le SNAP, donc le festival dédié aux travailleurs, travailleuses du sexe, on travaille surtout dans le fait de créer une autre norme, une autre normalité, au sens où l'espace du festival va être... Bon, déjà, le festival en lui-même est créé que par des personnes qui sont elles-mêmes travailleurs et travailleuses du sexe. La programmation, elle est faite que de représentations faites par des personnes concernées, etc. Donc, tous ces éléments font que le climat de l'événement, la normalité de ce qui s'y passe, elle est inversée par rapport à ce qui se passe habituellement. C'est-à-dire que là, pour une fois, on n'est plus minoritaire. Mmh. On est majoritaire. Donc, de fait, ne serait-ce que par ce procédé de travailler avec des personnes concernées et une programmation de personnes concernées, de fait, on crée un espace safe et bienveillant où, du coup, les travailleurs du sexe qui vont venir à cet événement vont se sentir, en fait, chez elles. Et c'est les personnes qui, quelque part, sont extérieures à ce monde-là qui vont devenir très précautionneuses et faire attention. Et ça passe aussi par le vocabulaire, par les terminologies employées dans la communication, dans la façon de décrire les événements, pour que ça soit invitant, pour que ça soit en puissance aussi. Voilà. Donc après, c'est moi, les festivals sur lesquels je travaille, c'est vraiment des espaces de représentation. Voilà, c'est plus des espaces de projection, d'exposition, de performance. Donc sans doute la question se poserait différemment. Enfin, ou en tout cas, ça ne serait pas suffisant. Il faudrait mettre en place d'autres choses s'il y avait des choses plus de l'ordre de parties ou de sex parties, etc. Mais voilà, en tout cas. Le procédé en fait qu'on a pour créer un climat safe, bienveillant et sécurisant, quoi.
Très bien. Alice?
Ouais, bah, du coup pour nous c'est un peu, bah, ça reprend un peu des choses qui ont déjà été dites et peut-être pour dire d'autres choses. Ce qu'on essayait de faire aussi par exemple pendant des soirées ou pendant que le bar était en activité, c'était aussi qu'il y ait toujours une personne référente en fait. Une personne d'entre nous, des 13 membres de la team, qui est toujours une personne référente le jour où le bar est ouvert, quoi, et que les personnes puissent toujours venir s'il y a quoi que ce soit qui est en train de se passer, puissent venir parler ou discuter ou dire ce qui va pas ou dire ce en quoi elles se sont passées dans cet espace, et aussi prendre le temps vachement de discuter de ça et de voir là où on peut améliorer les choses ou un peu changer les choses ou du coup voilà quelque chose comme ça.
C'est bien. Mais c'est vrai que je me souviens de l'organisation au Barlock qu'en fait il y avait des personnes référentes, quoi, des bénévoles référentes ou qui se baladaient dans l'espace et qui checkaient le public autant pour s'il y avait quelque chose qui se passait pas très bien en conflit entre des personnes, ou comme aussi le Barlock permettait d'être une zone libre, c'est aussi de voir si il y a une personne qui se sent pas bien physiquement parce qu'elle est en montée ou quoi, mais voilà, de mettre en fait effectivement à disposition des humains.
Ouais, et on a aussi pas mal collaboré avec des associations de réduction des risques.
Exactement, ouais. Modus.
Modus, Execo.
Ouais. Et j'ai entendu.
Ouais.
Vas-y,
pardon. Nous, ce qu'on fait aussi. Enfin, moi, c'est, par exemple, je me rappelle que j'ai été référente à pas mal de soirées parce que je passais beaucoup de temps à Mother's and Daughter. Et du coup, ce que j'essayais de faire aussi, parce que, par exemple, s'il y avait DJ et tout, et qu'il y avait des gens que je sentais qui étaient dans le bar, mais qui prenaient trop d'espace, et que c'était des personnes qui étaient plus vers le côté cis, men, hétéro, que du coup j'essayais vraiment de reculer ces personnes pour laisser l'espace devant, où les gens puissent se sentir vraiment libres de pouvoir juste danser, retirer leur t-shirt, être hyper à l'aise, des choses comme ça, quoi. Et c'est des petites choses qui se mettent au fur et à mesure aussi quand t'as un endroit, je pense, de voir ce qui fonctionne et ce qui peut aider. Ouais.
Oui. En termes de, si je peux me permettre de rajouter quelque chose avant que vous vouliez,
je t'en prie.
En fait, je crois dans le contenu. Le contenu de la programmation en fait devait jouer aussi sur le fait que du coup pour les soirées chaudières on essaie toujours d'avoir une programmation alternative, donc commerciale et tout ça, et du coup ça demande de la part du public une certaine curiosité. Du coup, y a d'office le public est majoritairement probablement intéressé par le contenu, enfin j'espère, et même s'il y en a beaucoup qui viennent aussi pour la teuf après minuit et tout ça, je pense que ça pose déjà une base, et du coup il y a effectivement déjà une majorité de gens qui sont là de manière consciente, enfin qui savent donc quoi ils se trouvent et que c'est bien de se comporter bien. Enfin, c'est bizarre de dire bien se comporter, c'est un peu subjectif. Non, mais
voilà, ils peuvent passer le relais aussi, pardon. Mmh. Oui, ça passe le relais entre le public aussi. C'est une histoire d'éducation aussi, parce qu'il y a quelques années, il n'y avait pas du tout ce genre de communication. Moi, j'ai commencé à faire des soirées il y a 15 ans, on va dire. Mmh. Et c'est vrai qu'on a fonctionné à l'instinct, par exemple, à nos débuts, de surveiller, de voir, mais ce n'était pas très conscient. Enfin, en tout cas, pour moi, c'est venu un peu plus tard, en m'engageant de plus en plus. Et en allant aux soirées chaudières et en étant au Pink Screens et ceci et cela, que j'ai commencé à travailler peut-être plus sur ces relations avec le public et d'informer justement dans la communication, comme tu disais Marianne, ça passe par là aussi, les visuels, les notes qu'on peut mettre à droite à gauche, et voilà. Et on a commencé à afficher aussi des choses récemment.
Et après, du coup, en fait, les relous se trouvent en minorité. Alors, le truc, l'effet pervers de ça, c'est que du coup, quand il y a un relou, tout le monde le voit et tout le monde le dit. Et à la fin, ça colle au cul de la soirée qu'il y a eu un relou. Attention. Mais bon.
On espère ne pas avoir été les relous dans les soirées, hein.
Ouais, voilà.
Mauvaise blague.
C'est clair. Moi, je me baladais avec ma cravache, je me rappelle, pour ceux qui filaient pas droit.
Mais je pense que.
Mais ça faisait son effet quand même.
C'est vrai. Très bien. Écoutez, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose? Non.
Non.
Alice non plus.
Non, pas comme ça.
Suzy, non plus. J'ai toujours peur qu'elle me fasse des doigts d'honneur.
Mais
écoute, je sais pas, des fois. Mais ça me plaît quand elle fait ça. Voilà.
Ah ouais.
On en reparlera. Mais bref, on va s'écouter de la musique.
Ouais.
Et là, allez. À part Cher, tu mets ce que tu veux.
Eh ben super.
On peut même mettre deux morceaux d'affilée.
On envoie Sunglasses de Tiga.
Mais voilà.
Allez, c'est parti.
Story lies.
Est-ce que tu veux bien passer l'extrait du phare, Suzy, s'il te plaît?
Tout de
le
suite.
Phare.
Ouais.
Est-ce qu'on peut expliquer c'est quoi le phare?
Alors, Chris va nous expliquer ce qu'est le phare, parce qu'il le fait beaucoup mieux que moi.
Ah.
Princessine.
Le phare, c'était un petit clin d'œil, parce que le phare a été créé il y a 50 ans. En 71, en France, c'était le Front homosexuel d'action révolutionnaire. Et dans cet extrait, je trouvais qu'il y avait... C'est un extrait d'une AG, j'imagine, ou d'une réunion, où se dégage pas mal de trucs, il faut écouter. C'était un petit truc comme ça que je voulais vous faire écouter.
Ouais, parfait.
En Europe, mais enfin, pas mal en Amérique. Ghetto genre dancing, endroit où on peut faire des rencontres pour baiser, mais surtout un endroit où enfin nous libérons les rues, au lieu de montrer notre sexualité dégoûtante, autant que nous soyons parqués. Ça ne nous plaisait pas. Ce que nous avons voulu, c'est avoir un contact avec les autres, ce qu'on nous refusait. Et justement, nous nous sommes demandé pourquoi on nous refusait ce contact, pourquoi nous ne pouvions pas parler avec les gens. Évidemment, l'habitude de ne pas parler faisait que nous n'y arrivions pas, d'ailleurs, au début. Pourquoi est-ce qu'on nous empêche de parler avec les gens, de nous expliquer, et même de les agresser comme eux-mêmes nous ont agressés? C'est parce que, nous l'avons vu, nous sommes une sorte de contradiction interne dans la société. Comme les autres, nous naissons de la famille hétérosexuelle bourgeoise, avec son système d'éducation, les femmes élevées en vue de la procréation, et les hommes pour être des mâles inséminateurs phallocrates. Nous, évidemment, c'est différent. L'homme et la femme ne sont pas égaux dans le couple, c'est connu. La femme n'est pas égale. Économiquement, elle est faite surtout pour langer les marmots, pour repriser les chaussettes de son mari. Résultat, deux hommes et deux femmes, au contraire, ça peut être l'égalité. À condition, bien sûr, qu'ils ne se mettent pas à singer le couple hétéro. Le couple hétéroflic, dans notre vocabulaire. C'est-à-dire, le couple où okay. Il y aura un gars...
Oui, vous êtes sur Radio Panique, c'est Talk from Homographia. Ici Princessine et je suis avec mon collègue Baxter et nos invités DJ Poussin, Alice des Mothers and Daughters et Marianne Chargois. Rebonsoir.
Alors,
pour ce deuxième tour, on avait une question à savoir comment dans vos collectifs respectifs vous fonctionnez. Il y a un mode de fonctionnement qui est peut-être particulier par rapport à d'autres organisations. On voulait peut-être parler de ça et peut-être commencer par toi, Alice.
Du coup, mode d'organisation. Alors, c'est très complexe.
Non, mais parce que déjà, en fait, on est 13 et on a aussi, on parle tous des langues différentes. Du coup, on a aussi ce truc où on fait tout en anglais déjà. Du coup, ça c'est déjà un truc un peu intense pour moi, par exemple, en général, bien que je maîtrise l'anglais, mais pour être vraiment compris. Et du coup, on essaye de se réunir. Là, qu'est-ce qu'on a essayé de faire ? De se réunir une fois par mois, mais là, on le fait un peu moins parce qu'il y a moins d'intensité. Mais par exemple, vu qu'on n'avait pas ouvert de bar ces deux dernières années, on a décidé de faire des événements à côté. Et du coup, ça, on essaye de se regrouper en team, donc essayer de voir qui a envie de faire certains événements et de créer des teams par rapport à ça. Donc, je sais pas, par exemple, on a fait une bière, la transition, et du coup, on a vu parmi les 13 personnes qui voulaient s'occuper de ça, et on crée des teams en fonction de chaque projet et tout, et on crée des teams aussi en fonction des choses plus administratives qu'il y a à faire. Du coup, mais est-ce que ça c'est un mode d'organisation un peu spécifique? Je sais pas, mais en tout cas, on essaie de se partager vachement les tâches et essayer d'être vachement aussi en train de regarder qui a du temps, qui peut le faire, est-ce qu'il y a l'énergie collective de le faire ou pas, est-ce qu'on abandonne certains projets parce que du coup il y a moins de gens. Enfin, on essaie toujours de se checker, de pouvoir voir comment on peut avancer et du coup voilà, c'est tout ce que je peux penser pour le moment. Mais peut-être d'autres choses me viendront. Mais voilà, en tout cas, on essaye de d'être ensemble au maximum, quoi.
Ok, mais c'est déjà pas mal hein, comme réponse.
Ouais, c'est intense à organiser aussi.
Bah ouais.
Et moi, j'ai cette tendance à vouloir, à faire beaucoup ou être vachement. Mais je sens aussi, enfin, par exemple moi, d'un point de vue personnel, que ça devient alors, si t'es dans beaucoup trop de teams, ça te fait comme si t'avais... Enfin, j'ai besoin d'avoir des fois des vues d'ensemble, comme ça. Mais du coup, ça fait beaucoup de charges. Et je sens que je dois des fois juste dire non et me décharger de certaines choses, quoi. Mais voilà.
Très bien. Merci, Alice. Est-ce que... je sais pas. Poussin, est-ce que tu as une... Non.
Oui.
Réponse à ça, oui, bien sûr.
Une réponse. Une réponse. Pas toute faite, enfin, pas définitive, mais
jamais.
Du coup, les soirées chaudières, ça a été assez fluctuant, en fait, le mode d'organisation. J'ai commencé un peu tout seul, à vrai dire. Puis, avec le succès, c'est devenu plus collectif. Du coup, j'ai un peu recontacté toutes les personnes qui avaient filé des coups de main aux soirées ou qui venaient régulièrement, en fait. Et du coup, on a fait des réunions. Donc, ça partait plus en organisation sur base de réunions. Et après, les gens faisaient ce qu'ils s'étaient engagés à faire ou pas. c'est comme ça. Mais par exemple, du coup, j'ai commencé tout seul, puis c'est devenu plus collectif. Puis la dernière grosse qu'on a faite, on l'a essentiellement organisée à 3 personnes, mais avec une grosse, grosse équipe de bénévoles. Et puis après, c'est passé plus en mode plus petit, parce que les gros lieux n'étaient plus dispo. Et du coup, ça c'est un peu un ami qui a repris l'orga, et lui, il fonctionne fort en mode j'organise tout, enfin il pose le cadre, il organise tout le cadre, et puis après il coordonne et il trouve des bénévoles, quoi.
Ok.
Voilà, en fait c'est très simple, c'est rien d'extraordinaire, en fait, c'est intense. Comme disait Alice.
On aime bien l'intensité. Hein.
Ouais, c'est ça.
Ah bah oui, ça c'est sûr.
Mais oui, c'est vrai que l'organisation collective, je veux dire réellement collective, et pas c'est un vrai enjeu, et c'est vrai que c'est extrêmement compliqué parce que souvent, on peut avoir des noms de collectifs, et puis en réalité, la charge de travail repose sur deux, trois personnes, et puis il y a d'autres personnes qui gravitent autour, mais en fait, c'est un vrai enjeu et c'est une vraie difficulté. Mais d'ailleurs, on peut parler avec Baxter du coup de comment on vit, en tout cas, les aventures en fait de ce collectif qui est naissant, avec lequel on crée le Bruxelles Porn Film Festival. Du coup, oui, il va y avoir la première édition, parce que c'est un peu ça aussi qu'on vit en ce moment. Et du coup, là, c'est vraiment en direct, on va dire, parce que voilà, on a commencé à se constituer quoi, il y a un an.
On a fait plusieurs réunions, ouais, il y a un an. On était beaucoup plus que là. Mais encore, je trouve qu'on est 8.
Ouais, même 8, moins.
7, 6.
Au départ, on était une quinzaine. Et puis finalement, le temps faisant, y a aussi vite, quand on est très nombreux, une inertie de groupe. Voilà, et en fait... Et là, on a réussi à se remobiliser du coup pour donner vie au festival. Mais finalement, là, on n'est plus que 5-6 personnes vraiment actives. Alors après, avec d'autres personnes,
même si on sait effectivement que voilà, c'est ça, que d'autres personnes qui sont autour de là seront toujours disposées à recevoir des informations et puis à les mettre en pratique s'il faut, ou à les utiliser, enfin à faire partie quand même de l'organisation, mais à d'autres niveaux, quoi. Et c'est vrai que pendant nos réunions, on fait quand même vachement gaffe aussi avec possiblement les expériences diverses et variées, parce qu'on est quand même très... on se connaissait quasiment pas, en fait, pour la plupart. Enfin, il y a eu comme ça un peu une rencontre aussi autour de la même envie de créer un festival d'images pornographiques avec plein de X. Et du coup, on a aussi appris à travailler ensemble et à faire attention aux questions de charge mentale et à voir qui pouvait être là à quel moment. Par exemple, moi, j'ai la place de la régie, donc effectivement, sur des points administratifs et tout ça, j'ai l'impression un peu de servir à rien. Mais du coup, j'essaye d'être là quand même et d'aider sur des petits trucs, en sachant que. Voilà, là en ce moment c'est pas forcément mon domaine, mais ça veut pas forcément dire que j'ai rien à faire à ce moment-là.
Et en termes d'organisation réellement collective, il y a l'expérience Tasmonique actuellement, peut-être Alice pourrait aussi en parler, enfin moi et Alice et toi, Axel pourrait aussi en parler. C'est que moi je trouve que ça fonctionne plutôt bien. Après, d'office, il y a des gens qui font plus que d'autres, a priori dans leur domaine, mais en réalité, je trouve que c'est assez fluide et on s'écoute bien et on fait les choses quand on sait qu'on peut les faire et qu'il y a assez de monde pour les faire, ou on laisse faire les gens qui ont vraiment envie de faire quelque chose, qui veulent le porter plus en solo, on laisse faire aussi parce que la personne a l'énergie de le faire, quoi.
Oui. Ah, on perd Alice dans les bois un petit peu.
Oh. Ah.
Ça y est, toi, voilà.
Vous m'avez retrouvé. Non, je disais oui, complètement. Non, moi, je trouve aussi qu'à Tasmonique, le modèle qu'on a trouvé aussi de faire... c'est un peu un modèle aussi qu'on a à Mothers and Daughters et qu'on applique depuis plusieurs années, quoi. Ce modèle d'espèce... Enfin, à Tasmonique, on appelle ça des commissions, mais pour moi, c'est aussi des espèces de teams qu'on a fait... avec d'autres collectifs, quoi. Et du coup, ouais, je trouve que c'est un truc qui fonctionne bien. Il y a un moment où tu te réunis et que chacun partage ce qu'il est en train de vivre dans sa commission ou avec toute la commission, et que c'est quelque chose. Ouais, je trouve aussi que ça marche vachement bien, nos intercommissions.
Un mi-chemin entre le truc strictement assembléiste et le concret, en fait.
Ouais.
Le faire ensemble.
Parce que t'es toujours... Mais ouais, parce que t'es quand même obligé de t'organiser un minimum. Enfin, moi, je trouve, si tu veux que quelque chose se passe, donc il faut quand même que tu trouves un modèle où ça qui te parle, ouais.
Surtout, en plus, qu'à Tasmonique, c'est un regroupement de beaucoup de collectifs qui refont collectif.
Ouais.
Et donc, c'était un peu l'enjeu aussi des âgés de 6 heures... qu'on aime tellement.
Et on vit aussi
bientôt
avec
ça
nos expériences, quoi.
Oui, voilà. Oui.
Ouais.
Bah, oui, c'est clair. Non, mais enfin voilà quoi. Je pense, ouais. J'ai plus rien à dire. Moi, voilà. Est-ce que vous avez quelque chose à dire, mon cher Princess? Sinon, on vous entend très peu.
J'écoute. Mais oui, le fonctionnement collectif, je sais pas comment le définir, comment moi je travaille, mais
c'est vrai. Organigrammes.
On fait des organigrammes. Je fais des organigrammes.
De votre côté, vous faites des organigrammes.
Parce que on est obligé, histoire de bien ranger les choses quand l'événement ou le collectif devient important, c'est vrai que la charge augmente aussi. Et il y a aussi une volonté de. Pour moi, par exemple, quand je suis dans un collectif, j'aime bien avoir une vue d'ensemble. Alors, ça veut dire que je me mets peut-être beaucoup de choses sur moi, mais en tout cas, de suivre les choses et de les communiquer en interne. Je passe pas mal de temps là-dessus aussi, par exemple. De communication interne, je trouve que c'est important pour pouvoir être sur la même page et être en mesure d'offrir un événement qui soit cohérent et qui puisse répondre aux attentes du public et à certaines choses, notamment qu'on a évoquées plus tôt. Donc c'est vrai, voilà, c'est ça que je peux dire de mon côté. Mais la charge mentale, oui, c'est vrai que j'avais jamais pensé à ça, mais il faut faire gaffe.
Ah oui. C'est une des premières questions que je vous ai posées. Hein.
Oui, c'est vrai. Ouais, je vois.
Ah, et puis c'est clair qu'à Mother and Daughters, par exemple, on est une VGTE, une ASBL, et du coup ça demande aussi tout un truc d'administration qui est hyper intense. Mm. Et du coup maintenant on a décidé. Parce que moi, je l'ai fait j'étais dans le truc plutôt administratif depuis que l'ASBL était créée, mais on a décidé, parce que c'est ça aussi qui est hyper bien, si t'es plusieurs et que des gens veulent apprendre aussi, c'est que de transmettre, en fait, et du coup, de changer de gens qui sont en train de faire des trucs plus administratifs ou plus techniques, ou plus, enfin, la technique, on n'a pas encore trouvé qui va me remplacer, mais on va trouver. Oh. Et du coup, j'ai essayé de... non, c'est pas que je veux quitter la technique, j'adore faire ça, mm-hmm. mais c'est cool d'avoir du support aussi. Mais du coup, ouais, c'est d'essayer de trouver qui peut rejoindre l'équipe et comment tu transmets aussi tout ce que... Parce que moi, j'avais monté d'autres VZE, mais c'est pas que tu connais tout non plus, et du coup, c'est comment tu transmets aussi toutes ces informations que tu as appris pendant ces deux dernières années. Et c'est ça aussi qu'on a trouvé intéressant, ouais, c'est de comment tu réintègres d'autres gens pour passer certains savoirs, ouais, c'est le mot que j'ai cherché, mais j'ai cherché un autre mot plus sympa, mais j'ai pas trouvé, donc on va dire savoir.
Des savoir-faire et des savoirs.
Savoir et compétences.
Savoir, compétences, la transmission. En parlant de transmission, Suzy a le micro dans l'œil, c'est très bien, c'est exactement comme ça que ça fonctionne d'ailleurs. Je comprends pas pourquoi, bon bref.
Pourquoi on a des lunettes, alors qu'on peut se mettre un micro dans l'œil?
Merci Poussin de finir le fin de la phrase. dites-moi mon cher Poussin, mais quel morceau vous nous avez choisi, entre autres?
Alors il y a un morceau qui s'appelle Épidémie et un morceau qui s'appelle Les garçons en chandail.
Ah. Alors, plouf plouf.
Si je
vous les avez pas en régie?
Non, c'était quand? Envoyé où?
Là. Ah merde, c'est moi qui les ai sur mon ordi.
Ah oui, mais alors c'est pas grave, on va les trouver sur internet. On va faire un truc super radiophonique, on va les chercher sur YouTube.
Ah bah voilà, mais super. Alors, puis, c'est Épidémie.
De Crète et pas Crète.
De Crète et pas Crète.
Oh là là,
my bad. En plus, c'est moi qui les ai sur mon ordi. Mais à la maison, même pas celui-là.
Ça nous fait vieille, hein.
Quoi ça?
Et Alice, tu avais dit que tu serais encore avec nous après le morceau, ou alors
Mais en fait, c'est soit que j'ai encore 14 minutes pour aller manger, et sinon j'ai plus à manger.
D'accord.
Donc, ah oui.
Peut-être.
On doit se dire au revoir ou quoi?
Mais oui. Peut-être.
D'accord.
Peut-être.
C'est bien que si tu manges, à ce qui paraît, c'est quand même pas mal pour survivre.
Oui.
Ouais. Et là, je suis vraiment en mode, on est dans un camp survival. Mais c'est pas ça qu'on fait, on fait d'autres choses, mais le but de cette semaine n'était pas d'être dans le camp survival, mais on s'est retrouvé dans un truc comme ça.
D'accord.
Ok, blablabla.
Merci beaucoup Alice alors.
Merci à vous de nous avoir invités. Et il y aura plein d'événements Mothers and Daughters
qui
vont arriver bientôt.
Super.
Des collaborations avec des grands endroits, non, une collaboration avec un endroit un peu plus grand, mais qu'on va complètement investir, ils vont rien comprendre. du coup, voilà.
Trop bien, bah, on a super
Parfait.
Hâte.
Ouais, des bisous.
Des bisous, on t'embrasse fort.
Bisous.
Jussi.
Et du coup,
on a la musique.
Bah, écoutez,
let's go.
Ouais.
Nous sommes de retour pour vous jouer un mauvais tour. C'est Princessine et Baxter, le duo infernal de Radio Panique. Vous écoutez toujours Talk from Homographia sur le 105.4.
Est-ce que cette émission est infernale?
Non, je sais pas, c'est nous qui sommes infernales, les deux béliers. Hein, inferno, ensemble. Bref, avant de se quitter, niveau inclusivité, on pense à nos adelfes de toute expression de genre, mais aussi à nos adelfes non valides et neuro A. On sait qu'on peut faire attention aux lieux dans lesquels on organise nos soirées pour qu'ils soient accessibles à tous. On peut aussi casser des murs, comme Anas Monique, et réadapter au mieux nos espaces dédiés, créer des endroits calmes, cool et chill pour se reposer de trop d'activités et de bruit environnant, avoir des anges gardiennes de soirée, des personnes référentes en cas de problème, des stands de prévention pour que la soirée soit aussi safer à ce niveau-là, une charte, un manifeste queer avec des idées basiques à respecter. C'est pas toujours évident de mettre tout ça en place, suivant l'espace accessible ou pas, et le public et sa gestion. Et du coup, cette question un peu flottante et à laquelle j'aime bien penser, et à laquelle il me semble qu'il faut qu'on pense, c'est comment est-ce qu'on manage la notion d'inclusivité quand on organise des événements. Voilà. Question à 3 milliards, bonsoir.
Et à 3 minutes.
Et à 3 minutes, ouais, aussi.
Alors, en tout cas, moi, de mon côté, sur les festivals, je ne le pense pas qu'en termes d'accessibilité en termes de public, mais en termes de possibilité de pouvoir accéder aux espaces scéniques et aux espaces de représentation. Mmh. Pour toutes et tous et donc la démarche en fait elle est de laisser des espaces ouverts pour des personnes qui n'ont pas forcément des facilités pour faire de la scène ou qui n'ont pas forcément déjà fait de la perf mais qui en ont l'envie et d'offrir du coup souvent en fait en amont des festivals il y a des choses qui sont créées exprès pour le festival. Et avec des systèmes d'accompagnement des personnes, que ça soit des accompagnements émotionnels, juste le fait d'aider à prendre confiance en soi, ou des accompagnements plus poussés, plus techniques, etc., pour aider les personnes en fait à mettre en forme si elles en ont l'envie et donner du coup ces espaces-là. Donc, de pas penser juste les programmations en termes de choisir différentes choses et de les agencer pour l'événement, mais de aussi en fait trouver des solutions pour que des personnes puissent prendre l'espace, même si elles n'auraient pas forcément toutes les clés à la base pour le faire.
Merci. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter, mon cher DJ Poussin?
Je suis pas sûr.
Oh écoutez, alors franchement, vous nous sauvez. Vous nous sauvez la fin de l'émission. Voilà, parce que on a démarré de travers. Très bien. Donc, pensons-y. Il y a plusieurs formes. Et mon cher Princessine, est-ce que tu veux nous faire un petit rappel de l'agenda?
Ah oui.
Je vous le montre. Faites-y donc.
Oui, oui. Alors, pour rappel, le festival Homographia, c'est du 29 septembre au 2 octobre, au Tripostal et à la Tour à Plomb. Et il y a un petit appel à bénévoles sur le site et sur les réseaux. Le Bruxelles Porn Film Festival, le premier du nom, du 17 au 22 février 2022, au CIU, et son appel à films aussi, We Want Your Porn Gazes. Et enfin, le festival Snap aussi, qui sera les 27 et 28 mai au Burskarberg. Et il y a d'autres événements qui arrivent. On attend des nouvelles des Pink Screens, on attend des nouvelles d'autres événements.
Des Mothers and Daughters.
Des Mothers and Daughters, justement.
La surprise dans ce gros lieu.
La surprise et plein d'autres, j'imagine, qui vont peut-être se créer. Quoi,
quand le retour des soirées chaudières.
Et les chaudières, oui, justement.
Mais moi, je ne sais pas.
Merci de poser la question, Poussin. Mais tu ne sais pas encore, ouais. D'accord.
J'ai eu vent d'un event éventuellement en septembre, mais effectivement, c'est encore un peu flou.
Oui, rien de confirmé.
C'est ça.
Oh là là. Bon, on a vraiment hâte. Est-ce qu'on peut se quitter en musique? On peut souhaiter un très bon mois de juillet-ambre dans cette ville de Bruxelles pour tous ceux qui y habitent. Un bon été et on peut
Octuyer,
voilà. Et se quitter avec Strong Enough de Cher. Oh. Ah bah écoutez, on va pas faire les choses à moitié, c'est le choix de Marianne Chargois. Mais on racontera pas d'où ça vient.
Et que du love si on est de, pour l'été. Et
que du love. Ans.
Bah ouais, que du love.
Bah ouais, que du love.
Voilà, c'est ça.
Le romantisme.
You'll never change for no one. And I hear your reasons why. Where did you sleep last night?